Basile, votre application de recherche immobilière, présente.
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour la France, on est très heureux d'être avec vous. Il fait très très beau ce week-end, voilà, vous voyez, vous allez sortir, vous allez déjeuner dehors, vous allez allumer votre poste de radio sur votre smartphone par exemple, ou en voiture pour écouter l'émission préférée du week-end. 12h, 13h, parlons immo sur Sud Radio, un peu partout en France, on est ravis d'être avec vous. Autour de l'équipe de Sud Radio qui m'accompagne tous les samedis avec l'extraordinaire, la seule, l'unique, Bérénice de Villefloriot.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va, Bérénice?
Eh bien écoutez, ça va.
Voilà, en pleine forme.
Oui, je suis en pleine forme. Ouais, et après, je pars au Puy du Fou, si vous voulez tout savoir, donc je suis contente.
Ah, sympa. J'adore la casquette
rose. Oui, j'ai mis une casquette pour le soleil. Il faut se protéger, hein. Crème et casquette pour tout le monde.
Vous partez avec la famille, j'espère.
Bah oui, évidemment. Bon, ben, jamais sans les enfants.
Le Puy du Fou, magnifique, hein, magnifique. Avec, bien sûr, notre producteur animateur préféré, Grégoire Darico. Comment il va, Grégoire?
Très bien, Sylvain, bonjour à tous.
Alors, les amis, alors que certains secteurs ralentissent, voilà, on est un peu dans une forme de crise économique, l'immobilier, lui, par contre, connaît pas trop la crise puisqu'il continue de recruter. Quels sont les métiers? Ben justement, les amis, si vous voulez vous reconvertir, les métiers qui offrent aujourd'hui de vraies opportunités dans l'industrie immobilière, on va en parler justement, une fois n'est pas coutume, avec une personne qui est le spécialiste en France du recrutement dans l'immobilier, c'est Jérôme Bionnec. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va très bien, je vous remercie. Merci pour votre invitation.
Alors Jérôme, vous êtes directeur associé chez FSC, Executive Search et spécialiste du recrutement. On parlera justement des talents dans l'immobilier. On écoutera également, comme s'il est d'usage et de tradition dans Parlons Immo, nos auditeurs après avoir récolté par SMS en envoyant Immo au 728. Et c'est avec vous, Bérénice.
Et on va parler de la taxe foncière qui augmente, mon cher Sylvain, qui augmente beaucoup dans certaines villes. On va voir pourquoi.
Et voilà. Absolument. Et d'ailleurs, on fera un petit clin d'œil à Éric Ciotti, qui est le seul département à avoir baissé sa taxe foncière.
Eh bien, on le remercie, ce brave monsieur.
Et on parlera également, comme d'habitude également, de rénovation énergétique avec vous, Grégoire.
Oui, mon cher Sylvain, vous l'avez dit, on a eu froid et là, ça y est, on a chaud. Donc, on espère tous que ça va durer. Et puis, avec Laurent Permas, on va voir si nos logements sont adaptés à ces écarts de température. Et puis, vous vous sentez fatigué peut-être, vous avez la sensation de mal dormir, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Alors, plusieurs raisons à ça. Peut-être que comme moi, cette nuit, vous avez eu un petit zouave de 3 ans qui s'est incrusté dans le lit. Sinon, c'est peut-être aussi un problème de qualité de l'air dans votre logement. On en parlera dans notre chronique Maison Saine avec Manuel Wojcikowski. Et puis, on fera le tour de France des biens coup de cœur. On ira à Gabarret et à Cherbourg en Cotentin.
Voilà, et comme d'habitude, bien évidemment, on fait le point des infos de la semaine avec Bérénice de Villefloriot.
Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Grosse semaine, Bérénice, quel a été le programme des infos à retenir?
Alors au menu, une alerte sécurité, je vous parle de balcons fragilisés par l'air marin qui inquiète surtout notre littoral. Ensuite, on va jouer à un petit jeu avec 250 000 euros en poche. Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter comme bien immobilier en fonction des villes? Et puis pour finir, une évasion, une île grecque entière à vendre pour le prix d'un studio parisien.
Ah, ça fait rêver. Alors Bérénice, on parle beaucoup en ce moment des balcons. D'ailleurs, on en a parlé à Paris, on en a parlé un peu partout en France. Mais là, c'est le bord de mer qui pose problème. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, on est plusieurs à en parler. Hein. Nos confrères aussi de TF1 ont fait un reportage dessus. En fait, c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Direction Saint-Nazaire en Loire-Atlantique où le paysage a de quoi surprendre. Sur les balcons, ce ne sont plus des chaises longues, mais des étais. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi des étais? C'est des poutres, des grosses poutres métalliques qui soutiennent les structures. Une centaine de logements sont concernés, rien que dans cette ville, hein, c'est beaucoup. Et juste à côté, à La Baule, c'est pareil, même vigilance. Alors pourquoi le bord de mer? C'est une histoire de chimie, tout simplement. L'air marin, les fameux embruns, il est chargé de sel, cette terre. Et le sel, c'est l'ennemi numéro un de l'acier. Or, à l'intérieur d'un balcon en béton, il y a des armatures en acier qui le font tenir. Et donc le sel s'infiltre, l'acier rouille, il gonfle et peu à peu, le béton se fissure et se fragilise. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Et c'est pas un problème isolé, hein. On estime qu'en France, 300 000 balcons présenteraient potentiellement un risque sur les 15 millions de balcons que compte notre beau pays. On en recense en moyenne, je le rappelle, on recense un effondrement par mois. C'est beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que les pouvoirs publics ont pris le sujet à bras le corps. Depuis depuis 3 ans, les copropriétés ont l'obligation de faire expertiser leurs immeubles. Le seul bémol, c'est un métier encore nouveau. Il y a peu d'entreprises capables de renforcer ces balcons. Donc, entre le diagnostic et les travaux, il faut parfois attendre longtemps, plusieurs mois, voire un an. Donc, le conseil, si vous êtes en copropriété, sur le littoral notamment, n'attendez pas, demandez où en est le diagnostic de votre immeuble.
Vigilance, les amis, vigilance. Encore une info très utile. On a une étude qui répond à une question qu'on s'est tous posée. Qu'est-ce qu'on fait avec 250 000 euros? Qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui en France et où?
Voilà, il faut savoir que c'est le ticket moyen, en fait. Hein. Donc, c'est Se Loger qui a sorti une étude qui passe au crible toutes les communes de France. Alors, première chose à préciser, donc sur ces 250 000 euros, c'est un budget tout compris. Donc dedans, il y a les frais de notaire et les frais d'agence inclus. Donc concrètement, ça fait 222 000 euros environ que vous pouvez investir dans votre logement. Alors qu'est-ce que vous pouvez vous offrir à ce prix-là? En moyenne en France, donc sur toute la France, ce budget vous offre 95 mètres carrés, donc l'équivalent d'un 4 pièces, c'est beaucoup. Mais cette moyenne, eh bien, elle cache des écarts énormes. Le grand écart, le voici, Paris. 250 000 euros, c'est 23 mètres carrés. C'est un studio, quoi. À l'inverse, il y a les villes comme Mulhouse ou Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, il faut avoir envie d'y vivre, mais et bien là, on s'offre plus de 180 mètres carrés. Une grande maison de famille, quoi. C'est 8 fois plus d'espace pour le même prix. Et entre les deux extrêmes, il y a plein d'options intéressantes. Du côté des grandes villes, Le Havre, eh bien, c'est 119 mètres carrés, pardon, pour 250 000 euros. Limoges, c'est 141 mètres carrés. Perpignan, 121 mètres carrés. Et si vous cherchez une maison dans une ville moyenne, vous avez Troyes ou Bourges qui vous offrent plus de 110 mètres carrés. Et le vrai message de cette étude, c'est qu'il suffit parfois de regarder un petit peu à côté. Par exemple, à moins de 50 km d'une grande métropole, donc sans quitter le bassin d'emploi, on gagne énormément en mètres carrés. Un exemple très parlant, à côté de Lille, vous avez Roubaix, où vous gagnez 66 mètres carrés. Et puis près de Lyon, Lyon qui est une magnifique ville, hein, Sylvain, eh bien, vous pouvez passer de 49 à 96 mètres carrés, par exemple à Saint-Fond, qui est juste à côté.
Voilà, on connaît bien
Bouet. Ouais, ben oui, c'est pour ça que j'ai taclé Saint-Etienne, voilà, au passage, hein, mais c'est pas
juste
méchant.
À côté d'une ville qui s'appelle Vénissieux, par exemple.
Exactement.
Et qui nous rappelle certains souvenirs. Bérénice, vous nous avez trouvé une toute autre option pour 250 000 euros. Par contre, il faudrait quitter la France.
Oui, il faut que vous quittiez la France, Sylvain. Alors là, on change carrément d'échelle. Imaginez un petit peu, même budget, mais cette fois-ci, c'est une île entière, une île privée grecque que vous pouvez vous offrir. Elle s'appelle Makri, elle se situe en mer Ionienne, à une vingtaine de kilomètres d'Ithaque. Je sais que vous connaissez bien.
Ah oui.
C'est 98 hectares.
Plus la de ville de Ulysse, dans Homère, l'Odyssée. Voilà.
98 hectares, plus de 7 mètres carrés de côte, rien que pour vous. Donc le prix annoncé, c'est 247 000 euros. Sauf que... Voilà, il y a un petit piège. Bon, déjà, c'est une vente aux enchères, donc ça veut dire que c'est le prix de départ. Donc évidemment, ça va augmenter. La vente aux enchères, elle a lieu le 13 novembre prochain. Et pourquoi ce prix de départ est si bas? Eh bien, parce que Lille, elle est estimée, il faut le savoir, à 8 millions d'euros à la base. Hein. Et en fait, eh bien, il y a une nouvelle expertise qui a tout changé. Il y a une forêt qui est classé et il y a des zones naturelles protégées par la réglementation européenne. Résultat, en fait, on peut quasiment rien construire sur cette île. Donc pas de grands complexes hôteliers, pas de villas de rêve. Vous pouvez en revanche cultiver, hein, faire de l'agriculture, des pâturages. Il y a juste une maisonnette en ruine, et une chapelle et une citerne, mais il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Mais vous savez pourquoi je vous en parle, Sylvain? Parce que je sais que vous, il vous faut peu de choses. Une canne à pêche, un petit endroit abrité sur la plage, et vous êtes heureux. Donc voilà, Sylvain, voilà. N'hésitez pas. C'est voilà. Pour vous, c'est le 13 novembre, la vente aux enchères.
Un bob et une petite bouteille de pastis.
Rien d'autre, what else?
Merci Bérénice, et tout de suite on attaque le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Et oui, une chronique que nous faisons chaque semaine sur la rénovation énergétique, le gros chantier du siècle, avec Laurent Permas qui est à distance. Il nous a boudé aujourd'hui, il est à l'extérieur, mais pour des bonnes causes. Et avec vous, Grégoire Naricot.
Et oui, Sylvain, on l'a tous ressenti ces dernières semaines. Il faisait encore très frais. Et puis, bah, tout d'un coup, depuis quelques jours, les températures vont grimper de presque 10 degrés dans certaines régions. Ça fait du bien. Mais Laurent Permas, bonjour. Ces écarts deviennent de plus en plus fréquents. Est-ce que nos logements sont vraiment adapté?
Oui, bonjour Grégoire. Pas vraiment en fait. Hein. C'est justement l'un des grands enjeux de la rénovation énergétique aujourd'hui. Hein. On parle de passoire thermique. Alors, il y a une légende urbaine. Hein. On pense que l'isolation, c'est uniquement pour se protéger du froid. Bah, en fait, c'est pire. pour les chaleurs. C'est même un sujet de santé publique. Hein. Et justement, bah, il faut penser confort d'été et variations extrêmes parce que voilà, c'est devant nous quand même, hein, les chocs de grandes différences de température.
Oui, Laurent, et pourquoi certains logements réagissent-ils aussi mal au changement de température? Et si je reformule, en fait, pourquoi est-ce que certains logements deviennent des fours et d'autres des frigos?
C'est tout simplement l'isolation. Donc, avant d'installer d'autres, justement, d'autres, je pense aux pompes à chaleur, je pense notamment aussi à tout ce qui est lié à la circulation air et RO, hein, de cette fameuse pompe à chaleur. En hiver, en fait, le froid il rentre très rapidement, puis en été, la chaleur en fait s'accumule très très vite. Donc, on a des appartements qui sont étouffants sous les toits, les maisons glaciales le matin, les températures instables toute la journée. Le logement devient justement dépendant de la météo extérieure et ces fameuses pompes à chaleur, bah, elles font pas, en tout cas, elles font peu, très peu s'il y a une très mauvaise isolation.
Ce que vous dites, c'est que l'isolation sert aussi contre la chaleur.
Bah évidemment, alors c'est du bon sens, mais en fait on l'oublie malheureusement, puisqu'on est toujours sur cette fameuse isolation, c'est l'hiver, donc bonne isolation permet aussi de ralentir, hein, l'entrée de la chaleur en été, on l'oublie pas, avec un exemple très concret, un toit mal isolé, hein, vous êtes sous les charpentes, ça peut transformer des combles en fournaise, on peut être très vite à 45 degrés l'après-midi, vous imaginez, et là c'est pour ça qu'on parle de santé publique, hein. Donc une bonne isolation de toiture déjà, des protections solaires, des ventilations qui sont efficaces, bah déjà ça peut faire descendre un peu quelques degrés et ça peut jouer de la différence.
Laurent, on parle souvent chauffage, on parle moins de ventilation.
Oui, oui, pourtant c'est essentiel en fait, bah, c'est le flux d'air, hein. Le logement performant aujourd'hui c'est pas seulement un logement qui consomme peu, c'est un logement qui garde une température qui est stable en fait, hein. Donc on va éviter les surchauffes, on va respirer correctement parce que lorsque c'est étouffant, hein, on voit dans une voiture, hein, bah, c'est à peu près la même chose sous votre toit s'il y a justement un défaut d'isolation, et la ventilation devient cruciale avec les fortes chaleurs, même si vous avez une climatisation.
Justement Laurent, j'allais y venir avec les épisodes de chaleur que l'on connaît de plus en plus, j'imagine que beaucoup de Français se posent la question de la clim.
Oui, alors là, justement, cette climatisation, il faut faire attention parce que c'est un peu la solution magique. Vous avez des climatisations, ce qu'on appelle des pompes à chaleur, je reviens dessus, RO, et là, ça fait descendre de quelques degrés la température, et donc vous avez des pompes à chaleur RR, c'est la fameuse clim que l'on connaît, où vous pouvez avoir une température beaucoup plus basse, hein, lorsque vous faites, vous avez 35 degrés. Donc le bon raisonnement, c'est de commencer déjà par un audit énergétique, avant d'installer une pompe à chaleur, avant d'installer en fait une climatisation. Pourquoi ? Parce que c'est protéger le logement de la chaleur avec l'isolation, la ventilation, et ensuite on regarde en fait la climatisation qui sera beaucoup plus efficace.
Finalement Laurent, ces écarts de température, ils révèlent les faiblesses de nos logements.
Exactement. En fait, un logement qui se refroidit très vite puis surchauffe brutalement, bah en fait, ça c'est tout de suite le signe, hein, avant même de faire un audit énergétique, d'une mauvaise isolation, d'un manque de ventilation ou d'une ventilation insuffisante. Et avec le changement climatique brutal, bah vous, tout de suite, on se met en difficulté, on apprécie mal en fait ce beau soleil que nous avons ce samedi d'ailleurs.
Donc finalement les amis, rénover c'est plus seulement préparer l'hiver à toutes et à tous. Si votre logement devient glacé en mars et étouffant en avril, c'est peut-être qu'il est temps de réfléchir à sa performance globale. Merci Laurent Permas.
Merci Grégoire.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Les amis, une petite pause, on revient tout de suite après. On va répondre d'ailleurs à nos questions, les questions des auditeurs avec vous, Bérénice de Milflorio. On recevra également notre grand invité. On parlera justement de projets professionnels avec le recrutement dans l'immobilier qui ne connaît apparemment pas la crise.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, parlons immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Vous êtes sur Sud Radio dans Parlons Immo, votre émission préférée du week-end, 12h, 13h. On parle de votre immobilier, de votre logement un peu partout en France et surtout on répond à vos questions, rubrique ça vous concerne. Avec vous, Bérénice de Milflorio, nous avons reçu une question.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Bérénice de Milflorio.
Et je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages chaque semaine. Vous nous posez votre question qui concerne votre logement, vos voisins, vous avez un problème. Vous envoyez IMO, I2MO, au 7-20-18. Donc IMO plus votre question. Comme ça, on sait que c'est pour nous. Et là, c'est Thierry qui nous a écrit. On va parler de taxes foncières. Alors, Thierry, il est en colère. J'habite la même maison depuis 15 ans. Je n'ai rien changé. Pas de travaux, pas d'agrandissement. Et pourtant, ma taxe foncière a quasiment doublé en 5 ans. Comment est-ce possible? Sur quoi est-elle calculée au juste? Il est tellement énervé qu'il ne nous a même pas dit bonjour, Thierry. Bon, et pour y répondre, on accueille une avocate, maître Manon Belin, qui est avocate fiscaliste et fondatrice justement de la plateforme Orca.tax. Bonjour, maître.
Bonjour.
Alors, maître, bon, on comprend la colère de Thierry, hein, c'est justifié. Qu'est-ce qui se passe à Limoges? Bon, à Limoges et puis dans d'autres villes. Comment est calculée cette taxe foncière? Pourquoi elle a autant augmenté ces dernières années?
Tout d'abord, on va commencer par rappeler un point essentiel, c'est que depuis 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Donc c'était a priori une bonne nouvelle pour les locataires et les propriétaires occupants, mais cette taxe rapportait quand même 22 milliards d'euros aux collectivités. Donc il a bien fallu compenser ailleurs.
Et donc les communes, certaines, ont décidé d'augmenter la taxe foncière, c'est bien ça, pour compenser le manque à gagner, en fait.
Exactement. Et Limoges est un très bon exemple, puisque Limoges figure dans le top 3 national des plus fortes hausses. La taxe foncière à Limoges a augmenté de près de 118% entre 2020 et 2025.
118%? Ah oui, donc c'est plus que doublé.
Et
bien c'est ce que nous disait notre brave Thierry. Bah ouais, mais c'est... Ouais.
Mais on peut dire à notre brave Thierry qu'il y a une métropole qui, elle, a carrément, et la seule d'ailleurs en France à l'avoir fait, c'est la métropole de Nice avec son maire Éric Ciotti qui a baissé la taxe foncière de 20%.
Ouais.
Comme quoi, là où il y a un chemin, il y a une volonté politique.
Et alors maître, donc vous nous dites que ça fait partie des 3 villes dans lesquelles la taxe foncière a le plus augmenté. C'est quoi les autres villes? C'est quoi, on va dire, le podium?
Alors, on a Nancy, Le Mans et Limoges, dans l'ordre.
Et Paris, alors non?
Paris, ça a augmenté aussi.
Oui, mais pas sur le podium.
C'est 52%, je crois, d'augmentation à Paris, non?
Absolument, oui. Ouais, absolument, ouais.
Tout à fait. Mais Orcatax a mené une enquête, justement, sur les hausses qui ont eu lieu dans les 50 plus grosses villes de France.
Bien sûr.
Et on a quand même des augmentations significatives.
Bien sûr.
Ouais. Et comment ils calculent du coup la taxe foncière? Parce que c'est calculé sur des valeurs cadastrales, c'est ça, hein?
Tout à fait. Alors, c'est calculé sur des valeurs locatives cadastrales qui datent de 1970. Donc une méthode qui a plus de 56 ans aujourd'hui. Et qui est mise à jour chaque année. Donc en fait, il y a deux façons d'augmenter la taxe foncière. Il y a la méthode nationale, donc tous les ans a lieu une revalorisation basée sur l'inflation, en plus de l'augmentation du taux. Donc sur les 5 dernières années, pour vous donner un ordre d'idée, on a eu plus de 17% rien qu'avec la revalorisation justement basée sur cette inflation.
D'accord. Bah, ce serait bien que les salaires augmentent aussi de 17%. Ce serait pas mal.
Ce serait appréciable et apprécié.
Et donc, ouais, donc on comprend maintenant pourquoi la taxe foncière augmente. Et puis après, c'est la commune qui décide d'augmenter ou pas encore plus donc cette taxe pour les propriétaires.
Donc finalement, les communes augmentent leur taxe foncière parce qu'elles n'ont plus de marge de manœuvre fiscale qui leur permet de boucler leur budget.
Ouais.
Alors, on peut les comprendre, mais en même temps, encore une fois, ce seront toujours les Français les plus moyens qui vont passer à la caisse et les petits propriétaires bailleurs.
Et il y en a beaucoup. Voilà, plus de la moitié, ce sont des petits propriétaires bailleurs.
Petits propriétaires bailleurs. Voilà. Ouais. Donc j'allais dire que je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que le message envoyé par une métropole telle que Nice, qui est une ville attractive, c'est plutôt destiné à rassurer les petits propriétaires.
Merci beaucoup, maître.
Exactement.
Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos messages.
Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Merci les amis, voilà, si vous prenez votre émission en cours, c'est Parlons Immo, votre émission préférée du week-end. On parle de votre immobilier, de votre logement. C'est l'heure de recevoir notre grand invité, comme c'est l'usage chaque samedi. Bonjour, rebonjour Jérôme Buanec.
Rebonjour Sylvain.
Directeur associé chez FSC, je vais y arriver, hein.
Oui,
Executive Search.
François Sanchez, consultant historiquement, tout à fait.
François Sanchez, consultant, ça me plaît mieux quand même, parce que FSC, voilà.
Plus sympa, peut-être.
Vous êtes un cabinet de recrutement, justement, c'est la question qu'on peut vous poser. On a vu que l'immobilier avait été quand même sévèrement chahuté, hein, faut pas exagérer non plus. L'immobilier neuf, c'est carrément un naufrage. L'immobilier ancien, bon, garde de bonnes couleurs, mais c'est nettement mieux. Donc on recrute encore dans l'immobilier.
On recrute encore, heureusement. Mais effectivement, c'est un secteur qui est malgré tout en crise. Alors l'immobilier, ça a toujours été des cycles. Donc là-dessus, rien de nouveau. Hein. Ceux qui ont connu 91 vous en parleront bien mieux que moi.
Oui.
Il y a eu 2008 et aujourd'hui, on vit un cycle quand même d'ensemble très compliqué.
Certains, un peu long le cycle.
Hein, un peu long. Ouais. Bah, 2008, certains ont comparé ça à un V. Donc c'est descendu très bas, très vite, mais c'est remonté très haut, très vite. Aujourd'hui, certains comparent ça à un L. Donc vous voyez bien l'idée, ça descend très fort, très vite, mais c'est bon, la progression, on l'attend toujours. Il n'y a pas tant que ça des signes positifs aujourd'hui. Quelques secteurs résistent, on va sans doute en parler, et tant mieux. Mais dans l'ensemble, le secteur est quand même à terre aujourd'hui. Il faut bien s'en rendre compte. L'industrie de la ville, donc tout ce qui est les métiers immobiliers et construction.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, à toute la France, que l'immobilier ne se borne pas à uniquement l'agence du coin qui fait l'angle de la rue. C'est toute une industrie.
Plus vaste, plus riche que ça. Exactement. Voilà. Le réflexe, bien souvent, quand on parle immobilier, c'est de penser à l'agence immobilière au coin de la rue. Eh ben non. Tout petit bout de la lorgnette.
Alors, mon cher Jérôme, justement, quand on pense à l'immobilier, hein, ce que pensent beaucoup de gens, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas. On pense immédiatement justement à cet agent immobilier. Si je vous demandais, alors je ne sais pas si vous avez ici un chiffre, hein, mais en réalité, il y a combien de métiers différents dans ce secteur? On parle de dizaines de métiers, de vingtaines de métiers, de
quoi? Une dizaine. On estime qu'il y a environ une cinquantaine de métiers qui ont attrait à l'immobilier.
Ah, quand même.
Eh oui, donc avec la promotion, l'investissement, les bailleurs sociaux, les utilisateurs, les services, bah, il y a finalement une multitude de métiers.
Alors dites-moi, malgré les ralentissements, parce qu'on parle vraiment d'une crise,
oui,
ces dernières années, l'immobilier apparemment continue réellement de recruter ?
Selon les secteurs, ça dépend. Si vous allez parler à un promoteur, si on prend l'exemple de la transaction, c'est un très bon exemple.
Oui. Achat, vente de biens immobiliers.
Dans le neuf, c'est vraiment sinistré. La promotion immobilière, c'est
Ça ne recrute pas.
Non.
Ça licencierait
c'est
plutôt.
C'est plutôt dans l'autre sens aujourd'hui. Par contre, la transaction dans l'ancien se porte bien. L'année dernière, c'est 945 000 ventes dans l'ancien. Ça représente 12% de plus par rapport à 2024.
Oui,
donc ça, c'est une belle progression, il faut s'en réjouir. Et dans la transaction dans l'ancien, il y a un secteur qui va encore mieux.
Le luxe.
Exactement. Oui. Gagner, Sylvain, le luxe.
Voilà, donc on est riche, plus on s'enrichit.
Voilà.
Et plus on est pauvre, et plus on s'appauvrit.
La population, les acheteurs russes ont plutôt déserté, pour des raisons que vous imaginez. Mais les acheteurs européens et les Américains adorent toujours notre capitale et notre Côte d'Azur. Donc ça fonctionne très bien.
Alors le luxe, on pourrait faire un peu de philosophie autour, mais on va avancer. Alors je sais quoi un profil le plus recherché quand on est justement, on dit quoi, chasseur de tête?
Chasseur de tête, ça me va très bien.
Voilà, chasseur de tête, vous les réduisez pas les têtes, hein, je précise quand
non,
même.
Non, c'est pas l'objectif.
Alors qu'est-ce qu'on, voilà, c'est qui le mouton à cinq pattes, la perle de l'immobilier?
Je vous inviterai dans nos bureaux, à l'accueil, on a notre mascotte, c'est un vrai mouton à cinq pattes, en bronze évidemment, mais taille réelle. Donc il fait souvent bien réagir nos clients et nos candidats quand on dit bah, ça y est, on a trouvé votre candidat et il est là. Mais évidemment, on ne s'arrête pas à ça. Donc aujourd'hui, le profil idéal, alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait mettre derrière tout ça. Il y a quand même une chose dont je veux parler, le Covid est passé par là. Ça a bousculé les habitudes et notamment le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, s'il y a bien un critère sur lequel mes clients sont très regardants, ça va être le critère de l'engagement. Parce que le curseur vie pro, vie perso, il a quand même bien basculé vers la vie perso depuis.
C'est la génération qui veut ça.
On ne veut plus travailler.
Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je suis malgré tout un peu d'accord avec vous, Sylvain.
On mange des graines et on fait du vélo.
Et on ne travaille pas.
J'en suis arrivé à des situations. Je vais vous raconter une anecdote. 2021-22, alors là, le secteur est en plein boom, tout le monde recrute, les candidats sont sursollicités. Et là, nous, en tant que chasseurs de tête, on assiste, moi ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et j'ai découvert des attitudes, des exigences absolument incroyables. Un exemple très concret, un candidat qu'on sollicite sur LinkedIn.
Allez, qu'on rigole un peu.
Allez-y. Eh ben, il voit qu'on est chasseur de tête, donc il se doute bien qu'on veut peut-être lui proposer quelque chose.
Ouais.
Sa réponse. Monsieur, si vous avez un sujet à me proposer, je vous arrête tout de suite. Voici mes exigences, en trois points. Premièrement, mes prétentions salariales sont de temps. Et à la limite, vous allez voir ce qui va suivre, c'est ce qui me choque le moins. Derrière, les arrondissements dans lesquels je suis prêt à travailler à Paris. On ne parle même pas de tout Paris. Alors, l'extérieur du périph', au secours. Troisième sujet, les modèles de voitures qu'il aime bien pour son futur véhicule de fonction. Avec les cylindrées précisés, parce que les chevaux fiscaux, c'est important. Voilà, les bras m'en sont tombés.
Il pourrait se reconvertir dans du stand-up, ça pourrait être plutôt pas mal. Restez avec nous, Jérôme Buanec, justement, on va continuer sur ce chapitre-là et on enchaîne tout de suite après.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, parlons immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Rebonjour les amis, si vous prenez votre émission en marche, nous sommes aujourd'hui samedi, il fait très beau en France et votre émission Parlons Immo 12-13h sur Sud Radio, un peu partout en France, de retour d'ailleurs pour la suite de notre grand entretien avec Jérôme Buanec, le chasseur de tête bien-aimé de l'immobilier. Merci, on s'interrogera ensuite avec vous Grégoire sur la maison saine, on va parler d'un grand sujet, c'est le sommeil.
Oui, et sommeil et qualité de l'air.
Qualité de l'air, un vrai sujet. On enchaîne justement tout de suite avec vous, Jérôme Buanec. Vous êtes directeur associé au sein du cabinet Frédéric Sanchez.
François Sanchez.
François Sanchez. Je vais y arriver. François Sanchez, Executive Search. Alors, on disait tout à l'heure, effectivement, vous avez dressé un portrait de. Il a trouvé du boulot, ce gars-là
Pas avec moi, en tout cas, non.
Non, parce que là, franchement, là, c'est
incroyable. Il a été embauché par les bisounours.
Est-ce qu'il faut, justement, faire de longues études? Est-ce que vous recrutez, voilà, j'ai fait Centrale, Sciences Po, ENA, Polytechnique.
C'est plutôt recommandé, évidemment, de faire des études. Bah, évidemment, je vous apprends rien. Et plutôt spécialisé. Alors, les grandes écoles de commerce, ou écoles techniques, voilà, pour les sujets techniques, pour les chaussées, Centrale, ESTP, ça fonctionne très bien.
D'accord.
Ça, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, il y a quand même des écoles qui se sont spécialisées en immobilier. Ça a quelques années, mais il y a 20 ans, ça existait très peu. Les SPI, l'IMSI, Subtertiaire, ça, c'est très bien. Ça...
Vous savez que Subtertiaire, c'est certainement l'une des meilleures écoles qu'on ait
jamais fait. C'est lui qui l'a
fondée. C'est ce qu'on m'a dit.
Non, je dis pour nos auditeurs. Parce que nos auditeurs ne savent pas que ça a été fondé par Sylvain Lévy-Valency.
Alors vous, j'ai bossé mon interview. Hein.
Alors, non mais, alors vous êtes très bon. Vous saviez que c'était moi le fondateur de Subtertiaire.
Oui, évidemment.
Il est vraiment très. Il faut revenir la semaine prochaine.
Non, mais oui, voilà, pas de problème, je prends un abonnement.
Il a son rond de serviette, ça y est.
Je suis flatté.
Non, mais c'est vrai que. Vous savez, je vais paraphraser une phrase du général de Gaulle. Finalement, l'important, c'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. En fait, je pense que quand on est. Chasseur de tête, on cherche aussi une singularité, non?
Oui, oui, alors effectivement...
Est-ce que ça plaît? Je veux dire, quelqu'un qui est parfaitement autodidacte, mais qui est bon, qui a une personnalité, etc., il a ses chances chez FSC?
Alors, oui, avec moi, il a les chances de me rencontrer et que je le présente à mon client. Moi, je joue un rôle de conseil. Après, c'est pas moi qui ai la décision finale, c'est mon client.
Il faut dire quand même que les études, ça ouvre des portes. Là
évidemment.
Où faut, enfin,
tout à fait.
Faut quand même le rappeler. Hein.
Oui, il faut se former. Hein. C'est comme il y a des spécificités.
Non, mais il y a des formations. Mais je veux dire, quelqu'un qui, de façon empirique, a appris un métier, qui a 30 ans d'expérience, il n'est pas obligé d'avoir la diplomite aiguë.
Non. Hein,
d'accord.
Je suis bien d'accord. Malgré tout, il y a un mal un peu français, c'est qu'ils aiment les clones, moi, mes clients. Hein. C'est valable pour tout, chez FSC.
Ils aiment les clones et ils aiment les esprits de corps. Hein. Donc on se recrute entre soi. Quoi.
Aussi, on est présent sur tous les métiers ou secteurs d'activité. On est plus d'une trentaine. Et ce qu'on constate, c'est autant les anglo-saxons sont très pragmatiques, ils vont regarder les soft skills, le savoir-être. En France, ils vont beaucoup regarder quand même le CV. Ouais. Une fois de temps en temps, ils sont prêts à tenter le pas de côté. On repart sur l'immobilier de luxe. Hein. Aujourd'hui, je recrute pour une grande maison de prestige, le directeur commercial. Et là, c'est tout le contraire. Ils m'ont dit non, je veux pas de professionnel de l'immobilier, je veux quelqu'un qui ait les codes du luxe. Vous allez chercher dans la joaillerie, les voitures.
Justement, j'ai une demande. Charles-Édouard de Castelbajac souhaiterait rentrer dans le luxe, c'est possible pour lui,
Qui m'envoie son CV.
D'accord.
Je pense que ça marchera.
D'accord, voilà. Mais s'il a un autre nom, je dis ça, je dis rien. Alors, on parle beaucoup de reconversion professionnelle dans l'immobilier, beaucoup. Oui. Notamment avec les réseaux qu'on appelle de mandataires, qui proposent des carrières dans l'immobilier, même des personnes qui étaient, par exemple, concessionnaires automobiles, vendeurs. Oui. Alors, c'est quoi les métiers aujourd'hui, Jérôme, qui recrutent le plus dans l'immobilier?
Alors, les secteurs d'activité, en tout cas, je veux dire, qui recrutent le plus, on a parlé de la transaction dans l'ancien, les typologies d'actifs, parce qu'on parlait de l'immobilier résidentiel, mais l'immobilier, il faut que nos auditeurs le sachent, c'est du bureau, c'est des commerces, c'est de la logistique, c'est de l'hôtellerie, tout ça, c'est l'immobilier. Et les classes d'actifs qui fonctionnent, c'est l'hôtellerie, c'est le commerce et c'est la logistique. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de ces sujets-là.
Les classes d'actifs qui finalement sont performantes où il y a de la demande. Alors, pour quelqu'un qui nous écoute, voilà, qui voudrait se lancer, qu'est-ce qu'on lui conseille? Par où il commence?
se former, on l'évoquait juste avant, il y a des écoles qui font ça très bien, se renseigner. L'immobilier, alors qu'il ouvre la porte d'une agence immobilière, ceux qui font
mais
ça.
Je peux aller sur votre site, j'ai de la doc, du contenu, je peux.
Oui, on a un site internet qui a été refait il y a 6 mois, allez-y, il est tout beau, tout neuf. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur fsc.com.
Alors, la question qui tue. Alors, est-ce qu'on peut bien gagner sa vie dans l'immobilier? Ou est-ce que. Alors. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais bien souvent, on avait cette mythologie du promoteur à Ray-Ban, costard à rayures. Rien que de le regarder, on se disait tout de suite, on va se faire découper en morceaux. Bon, une image un peu éculée, mais oui. Voilà, concrètement, est-ce qu'on gagne derrière. Bien sa vie dans l'immobilier?
Oui, mais heureusement.
C'est comme tout, j'imagine. On n'est pas. Enfin, j'imagine que ça dépend des métiers, ça dépend des personnes. C'est
exactement.
Comme partout, quoi.
Tout à fait. Mais heureusement, moi, c'est une bonne chose. On peut très bien gagner sa vie dans
Parce
l'immobilier.
Il y en a qui galèrent aussi dans l'immobilier. Hein. Alors, moi, j'en connais.
J'y vais venir. Exactement. Tout le monde ne gagne pas sa vie. Je reviens sur ce que vous disiez, les mandataires.
Oui.
Mandataires. Alors, le leader, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais.
Non. Mais on va.
Peu importe.
Parmi les leaders.
Parmi les leaders, souvent ceux qui arrivent là-dedans sont pas toujours très bien formés. Ils fantasment un peu le métier de l'immobilier. Ils ont vu quelques émissions sur la 6 en boucle qui leur ont fait rêver.
Mais c'est important de le dire.
Mais oui.
Parce qu'il faut le dire.
Il faut arrêter de faire rêver les gens.
Mais oui, il faut être formé.
Ils pensent que c'est facile, que c'est de l'argent facile. Non, pas du tout. Et donc, ils franchissent la porte du mandataire. Le taux de turnover, la première année chez les mandataires, 50%.
Ah oui, donc il y en a un sur deux qui claque la porte.
Voilà. Donc c'est pas si simple.
Alors, c'est quoi les métiers les plus recherchés, mais parfois méconnus?
Parfois méconnu. Ah, alors, les métiers, qu'est-ce que je vais vous mettre en avant? Asset manager, ça parle à peu de monde, finalement.
Ça veut dire quoi en français,
asset manager? C'est un gestionnaire d'actifs, effectivement. C'est très anglo-saxon comme terme. L'asset manager, chez les investisseurs, ceux qui achètent des biens immobiliers, c'est la fonction clé. C'est celui qui va créer de la valeur en valorisant son patrimoine. Il a un patrimoine qui vaut tant, qui a été expertisé. À la fin de l'année, comment il fait pour que ce patrimoine vaille plus.
D'accord.
Donc il va mettre plein d'actions en place,
contre,
de commercialisation.
Alors il y a un autre métier qui fait de la gestion, on appelle ça le property manager. En fait, il y a celui qui augmente la valeur et celui qui la conserve.
Et qui l'exploite.
Dernière question, que si vous aviez un conseil à donner à un jeune ou à quelqu'un en reconversion pour qu'il hésiterait à franchir le pas, ça serait lequel?
Ce serait de s'accrocher. Le secteur, la période est quand même pas hyper favorable, faut se dire. Mais ça vaut la peine d'insister parce que le secteur est passionnant et riche. Il touche le quotidien de tout le monde. Vous dormez dans un logement, vous travaillez dans un bureau, vous allez faire vos courses dans un centre commercial, vous achetez vos colis via une plateforme logistique et vous allez passer vos vacances à l'hôtel. Donc ça a un effet très concret sur la vie des gens au quotidien. Donc allez-y, je vous invite très fortement à pousser la porte des formations en immobilier parce que derrière vous allez vous éclater.
Alors si vous voulez en savoir plus, on va sur le site internet FSC.
Je reviendrai.
Voilà, FSC Executive Search. Je vais y arriver.
Merci.
Et on contacte directement Jérôme Bionnec. Si on a une question sur le recrutement, si vous avez également d'autres questions, écoutez, vous nous écrivez. Merci Jérôme, vous restez avec nous parce que on va vous poser aussi des questions tout à l'heure sur la question de la semaine. C'est un peu un exercice hebdomadaire de dialoguer autour d'un sujet d'actualité. Et d'ailleurs, maintenant, sujet d'actualité, il y a, on va parler de la qualité de l'air dans votre logement et surtout comment mieux dormir chez vous avec un air sain.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Voilà dans votre rubrique Maison Saine avec vous, Grégoire Dorico, et l'excellent Manuel Wojciechowski qui est avec nous.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Maison Saine. Aujourd'hui, on vous parle de sommeil. Vous vous couchez fatigué et vous vous réveillez encore plus fatigué. Vous avez parfois la sensation de mal dormir sans vraiment savoir pourquoi. Et bien si le problème ne venait pas uniquement du stress ou des écrans, mais aussi de votre chambre et de la qualité de l'air que vous respirez pendant la nuit. Pour en parler, je reçois Manuel Wojciechowski. Bonjour Manuel.
Bonjour Grégoire. Oui, on sous-estime énormément l'impact du logement sur la qualité du sommeil.
Manuel, dites-nous tout, comment c'est possible que notre logement puisse perturber à ce point notre sommeil ?
Eh bien, pendant la nuit, on passe 6, 7, parfois 8 heures dans une pièce fermée. Et durant ce temps, nous respirons, nous produisons de l'humidité, du CO2 et de la chaleur. Si la chambre est mal ventilée, l'air devient progressivement plus humide, plus chargé et moins sain.
Donc même sans bruit ou sans lumière, l'air peut perturber le repos.
Exactement, un air trop confiné peut provoquer des sensations d'étouffement, des réveils nocturnes, des maux de tête au réveil, des fatigues persistantes, voire des difficultés de concentration même la journée.
Et Emmanuel, l'humidité joue aussi un rôle?
Oui, énormément. Une chambre humide favorise les acariens, les moisissures et une sensation de froid inconfortable. Certaines personnes se réveillent avec le nez bouché, avec la gorge irritée ou une toux légère, sans faire le lien avec leur environnement.
Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter dans notre chambre?
Oui, bien sûr, Grégoire. Ça peut être parfois de la buée sur les vitres le matin, une odeur de renfermé, des murs froids. Ça peut être des traces dans les angles ou alors une sensation d'air lourd. Ce sont souvent les premiers indicateurs d'un problème de ventilation ou d'humidité.
Manuel, on en avait déjà parlé. Le problème, c'est qu'en pensant bien faire, on a tendance à se dire qu'il faut chauffer plus le logement.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, chauffer sans renouveler l'air ne règle pas le problème. En fait, on réchauffe un air qui est déjà dégradé et dans une pièce trop chaude ou trop humide, le sommeil est souvent moins récupérateur.
Dites-nous tout, c'est quoi les bons réflexes pour mieux dormir?
Alors, il y a quelques gestes simples, hein, qui peuvent vraiment faire la différence, hein. Ça peut être par exemple déjà d'aérer la chambre chaque jour, même en hiver, de maintenir une température autour de 18-19 degrés, éviter de faire sécher du linge dans la chambre, bien sûr vérifier le bon fonctionnement de la ventilation et surveiller le taux d'humidité idéalement entre 45 et 55%.
Ce que vous dites, c'est que bien dormir, ça commence par bien respirer.
Oui, exactement, Grégoire. En fait, le sommeil, ce n'est pas seulement le matelas ou le silence, hein, c'est aussi la qualité de l'air que notre corps respire pendant plusieurs heures.
Manuel, le bon réflexe, c'est...
Eh bien, si vous vous réveillez fatigué chaque matin, écoutez votre corps, mais regardez aussi votre chambre, parce qu'un logement sain, c'est parfois le premier pas vers un sommeil récupérateur.
Merci Manuel Wojcikowski, directeur national de la formation des experts chez Murprotec. Et à vous qui nous écoutez, rendez-vous sur maison-saine.fr si vous avez des questions. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, maison saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Petite pause, les amis. On va se retrouver tout de suite après pour la dernière partie de notre émission au programme. On va parler justement de la grande question de la semaine que l'on va évoquer avec vous, mais également on fera le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Les amis, vous êtes sur Sud Radio, Parlons Immo, votre émission tous les week-ends de 12h à 13h, On parle de votre immobilier, des soucis que vous avez avec votre logement. Surtout, vous n'hésitez pas à vous appeler la rédaction en nous envoyant justement par SMS. Vous tapez Immo au 7 28 I2MO et ensuite vous posez votre question. Et tout de suite, on va faire le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction. Et cette semaine, Grégoire, où allez-vous nous emmener?
Eh bien Sylvain, j'ai été très objectif pour ce premier bien. Je vous emmène dans mes chères Landes où j'ai trouver une superbe ferme landaise de charme à vendre. Direction Gabarret, vous êtes ici en Armagnac, à la limite du Gers, à 45 minutes de Mont-de-Marsan. Une magnifique ferme à vendre, donc d'une superficie de 350 mètres carrés avec son architecture caractéristique en torchis et colombage. L'ensemble est en excellent état, elle a été entièrement rénovée et maintenue en état par les propriétaires. Elle comprend un logement principal d'environ 175 mètres carrés avec un bel espace de vie de plus de 68 mètres carrés. Une cuisine fonctionnelle avec un four à pain, mon cher Sylvain, j'ai pensé à vous, vous allez vous régaler. Une salle à manger et un accès direct à une terrasse de 48 mètres carrés orientée plein sud. Vous avez également trois chambres confortables avec chacune leur salle de bain. À noter que les combles font 80 mètres carrés, elles sont aménageables. Et en plus de cette maison principale, vous avez une deuxième habitation et ancienne étable de 150 mètres carrés qui est parfaitement habitable après quelques travaux quand même. Mais bon, un cadre exceptionnel sur un terrain plat et arboré de 8000 mètres carrés et un logement situé à moins de 5 km des commodités essentielles, donc commerce, transport, médecin. Tout ceci très sympathique à retrouver sur le site de Basile au tarif de 298 000 euros.
Vous vous rendez compte, ça c'est bref. À ce prix-là, on a un toilette amélioré dans Paris. Alors, avec un apport de 20%, soit environ
59 600 euros, voilà.
Ça coûte
25 ans à 3,4%, vous aurez des mensualités à 1 438 euros.
La messe est dite. Allez, une annonce en plus, rapidement.
Oui, une annonce immobilière atypique qui vient d'être mise en ligne. Le bien à vendre, c'est un château d'eau situé à Cherbourg, en Cotentin. L'annonce, elle a été mise en ligne vendredi 1er mai 2026. Le bien atypique, qui se situe rue Victor Hugo à Octeville. Sur une parcelle cadastrale de 808 mètres carrés, ce château d'eau dispose dispose d'une surface habitable de 114 mètres carrés. L'annonce nous précise que c'est un beau terrain clôturé avec eau et électricité. Naturellement, la structure en béton offre une vue dégagée à 360 degrés sur le cap, du Cap Lévis pardon, à La Hague. C'est pas mal. Cap Lévis bien nommé. À l'intérieur, le château d'eau est dans son jus. Plusieurs paliers reliés par des échelles mènent au réservoir, de quoi donner le vertige. Mais bon, pour les amateurs de biens atypiques ou les investisseurs en quête d'un projet original, faudra débourser 146 000 euros pour acquérir ce château d'eau.
Ouais, bah écoutez, voilà.
Alors, Sylvain, vous voulez vivre dans un château d'eau ?
Oui.
Avec vue sur le Cap Lévis.
Cap Lévis, voilà. Je mets mon adresse à Monsieur Lévis en son nom. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas. Merci Grégoire. Et tout de suite, on va attaquer la grande question de la semaine. La grande question de la semaine, c'est justement un sujet d'actualité que l'on partage avec vous. C'est un petit peu la libre antenne, la libre parole que l'on fait circuler. On va parler d'un sujet important. C'est justement un projet. Alors, c'est une qu'on appelle une PPL, un projet, une proposition de loi par une députée, Constance de Pelichy, députée du Loiret, dans un groupe qui s'appelle le groupe LIOT, voilà, ouais. L-I-O-T. Il y a de l'UDI, démocrate ouais. de gauche, voilà.
C'est une ancienne républicaine,
et,
en fait, Constance
de Pelichy. Elle dit la chose suivante, voilà, elle dit la chose suivante, il faut relancer la natalité. C'est vrai que quand on prend avec vous, Bérénice, les chiffres de 2025, c'est sûr que 651 000 décès et seulement 645 000 naissances, il y a un vrai sujet.
Et ça continue, premier trimestre 2026, l'INSEE le dit, la natalité continue de dégringoler.
Et donc l'idée, c'est un PZ, vous allez nous expliquer. Alors, c'est
oui,
quoi, l'idée
alors l'idée, et je suis contente parce que j'étais la première à en parler sur les médias, j'en ai parlé sur CNews il y a 15 jours et sur Sud Radio aussi, je vous en avais parlé en exclusivité et tout le monde l'a reprise. La PPL, donc la proposition là, c'est quoi? Elle propose, Constance de Pelichy, elle dit que la plupart des couples, 3 couples sur 4, eh bien, déclarent avoir des difficultés pour se loger et donc il freine le projet bébé. Alors elle propose un prêt à taux zéro. C'est quoi un prêt à taux zéro? C'est un prêt sans intérêt. On n'a pas les intérêts à rembourser, c'est l'État qui le fait à notre place. Un prêt à taux zéro de 100 000 euros. Pour les familles, il faudra déclarer la grossesse, mais ça peut se faire jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Donc en gros, vous avez 5 ans, grossesse y compris, pour le demander. Il est cumulable avec les aides existantes, hein, par exemple MaPrimeRénov, etc. Et l'autre PTZ. Et surtout, et ça c'est important pour moi, il est sans condition de ressources. Ça s'adresse à tout le monde, à toutes les femmes qui veulent devenir maman. Et c'est important parce que la République doit soutenir tous les parents. Peu importe leurs conditions de ressources. Pourquoi ? Parce que certains Français travaillent dur et sont juste au-dessus des plafonds des aides. Et nous n'avons pas le droit aux aides. Et alors, c'est injuste.
On va donner mon avis. Moi, je suis pas. Voilà, ça me laisse très dubitatif, mais je vais vous dire pourquoi. Justement, notre citoyen recruteur chasseur de tête, ouais. Il en pense quoi de cette idée, comme ça, à bol pourpoint ?
Moi, je vote pour.
Voilà. Merci, cher.
Je vous en prie, Bérénice. Non, en fait, toutes les initiatives qui poussent à relancer la natalité sont les bienvenues. Ouais. Sur mon prisme à moi, celui de l'immobilier, la natalité, c'est une très mauvaise nouvelle.
Bah oui.
Moins de bébés maintenant, ça veut dire besoin de moins de mètres carrés dans le logement tout de suite, et dans 20-25 ans, quand ils seront diplômés, bah besoin de moins de mètres carrés dans les bureaux. Donc il y a un vrai enjeu à relancer ouais. cette natalité.
À tout point de vue. Alors je vais vous dire pourquoi ça me laisse dubitatif. Parce que le sujet, c'est pas le prêt à taux zéro. Le sujet, ce sont les prix prohibitifs, la spéculation immobilière qui empêche les cadres moyens, les classes moyennes et les classes modestes d'accéder à la propriété. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas le PTZ qui est en cause, puisque un PTZ, ça s'appelle un prêt à taux zéro. Mais c'est quand même un prêt. C'est-à-dire qu'il faut rembourser.
Ah oui.
Il faut rembourser à l'heure où les Français non seulement n'arrivent pas à rembourser leur loyer, à payer leur loyer, mais n'arrivent carrément pas à payer l'électricité. C'est de ça dont on parle.
Oui, enfin le PTZ, il a fonctionné sur la maison individuelle.
Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis simplement qu'aujourd'hui, vous avez 3 PPL en cours sur le logement sans aucune coordination de l'Assemblée nationale. Vous avez chaque député, une ou deux députés qui vont faire du logement leur martingale et essayer de le préparer. Ce que je déplore tout simplement, c'est une absence totale, comme quoi finalement, avec Emmanuel Macron, rien ne nous aura été épargné en matière d'industrie immobilière. Aucune planification, aucune loi de programmation. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas très longtemps au téléphone avec Valérie Létard, ancienne ministre du Logement, qui dit il aurait fallu une loi de programmation structurante, à l'instar de l'armée ou par exemple de la police, pour avoir une politique de la natalité. C'est hyper important la politique de la natalité.
Bah oui.
Vous avez raison.
Oui, oui.
Le premier frein, vous rendez compte, le premier frein pour faire
alors,
les gosses,
y en a un.
C'est le logement.
Oui,
c'est un vrai sujet.
Il y a un plan pour lancer la natalité, mais c'est vrai que le logement n'en fait pas partie. C'est, ce que vous dites est vrai, c'est déplorable, mais là, il y a quand même des impulsions. On ne peut pas critiquer l'intention de la députée.
Non, mais Bérénice, vous voyez ce que je veux dire, en fait. C'est-à-dire qu'on s'attaque, en fait, à une cause, à quelque chose qui est de l'ordre de la conséquence, mais pas de la cause. La cause, aujourd'hui, c'est la structuration même de la platification du peuplement. Ouais. Les politiques de peuplement, c'est de l'aménagement du territoire. Il faudra juste espérer que quelqu'un aura un peu plus de vision politique, mais en tout cas, sur le principe, on peut saluer effectivement l'initiative. Eh bien voilà les amis, on est très heureux de se quitter. Je resterai bien un petit peu avec vous. Allez, bon café pour ceux qui sont au café. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous écrire par SMS au 7-20-18, poser votre question en tapant I2MO. On se retrouve le week-end prochain dès midi pour votre émission préférée du week-end Parlons Immo sur Sud Radio un peu partout en France. Prenez soin de vous et on se retrouve samedi prochain.
Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.